décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 17, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire cette semaine ?
Un gros sommaire qui parle beaucoup de Covid, forcément.
Incroyable.
Atlantico. Jitsi, l'appli open source pour échapper aux failles et dangers de Zoom.
Et donc, on reparle d'une application, de cette application de conférence vidéo qu'on est en train d'utiliser en ce moment même pour enregistrer, qui marche plutôt bien, on en est assez content. Rappelons, il y a plein de problèmes de sécurité qui ont été remontés pour Zoom, et donc Jitsi fait sa pub quelque part sur le sujet, notamment parce que c'est du libre et tout le monde en parle et l'utilise en ce moment.
Le Figaro.fr, mobilisation générale pour développer l'application Stop Covid, un article d'Elsa Benbaum.
Développer cette application, c'est pour essayer de tracer les contacts des gens. On va en parler juste après.
France TV Info, on est en pleine guerre informatique. Après le coronavirus, faut-il s'attendre à une autre crise ? Un article d'Antoine Marquet.
Donc il semblerait qu'en ce moment même, il y a beaucoup d'attaques informatiques qui ont lieu, notamment dans les hôpitaux, c'est bizarre, c'est rageant. Et il faut se préoccuper du futur parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'Internet, c'est indispensable, c'est une brique nécessaire au fonctionnement de la société mondiale. Et donc, il faudrait s'assurer que ça continue à être le cas, notamment en s'assurant que ce soit un outil hyper solide et qu'il le reste, éviter la centralisation.
Après, il n'y a pas que les hôpitaux, il y a aussi tous les instituts de recherche qui sont attaqués.
Ah oui, non, mais c'est là d'être un gros truc en ce moment, on ne sait pas trop d'où ça vient. On en reparlera peut-être si on découvre des informations là-dessus.
FZN, Open Covid Pledge, l'open source au service de la lutte contre le Covid-19, un article de Mika.
Donc c'est une sorte de mobilisation où on est d'accord pour mettre en commun ce qui est inventé, découvert, créé pour combattre le Covid-19 et sa propagation. Donc c'est plutôt sympa parce que tout ça, c'est un peu l'esprit du libre. On met en commun, on partage et on ne s'attaquera pas sur ce qui a été créé. Donc c'est plutôt bien.
Siècle digital, l'UE lance une plateforme de données dédiée au partage d'informations sur le Covid-19, un article de Valentin Simino.
Alors il va falloir qu'on aille jeter un œil, parce que c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées dans le monde entier. Donc une institution un peu majeure qui essaye de regrouper, de proposer un pôle où on peut se retrouver, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais il faut aller voir comment c'est implémenté.
CEOonline.com. L'Université de Nantes déploie sa bureautique collaborative en ligne en interne.
Donc c'est un gros truc, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs potentiels, donc là, ça fait plaisir, c'est plutôt bien. L'article est payant, malheureusement, donc j'ai pas pu tout regarder, mais c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'on risque d'en parler dans un prochain podcast.
UP Magazine, les communs pour un autre futur du travail, un article de Grégoire Epitalon.
Et oui, tout le monde parle futur parce que on essaye de réfléchir à l'après-Covid, et notamment dans le contexte du travail où les communs, donc une autre organisation économique, peut être intéressante à creuser, à mettre en place. Donc on peut toujours avoir cet espoir. En tout cas, l'article met ça en avant. Alors le sujet du jour, je vous propose, on va parler du Covid.
Encore, de Stop Covid, l'application, ou en tout cas le projet d'application pour surveiller tout le monde, pour essayer d'enrayer l'épidémie.
Et ça fait un peu gros bordel en ce moment, en fait. Il y a plusieurs problèmes pour faire cette application-là qui sont arrivés à peu près en même temps. Et aujourd'hui, la France est en train de prendre des directions assez bizarres. Il y a une guerre avec Google, Apple, etc. Donc c'est un vrai bordel autour du sujet.
On peut reprendre déjà, c'est quoi l'idée de base de cette application ? Parce qu'il y a peut-être
plein de gens
qui nous écoutent, qui n'ont pas trop de vision là-dessus.
C'est pas très clair pour moi non plus.
Si jamais vous êtes quelqu'un qui est tombé malade, en fait, le problème qu'on a, c'est de savoir qui vous avez pu rencontrer avant de tomber malade, qui pourrait potentiellement tomber malade à leur tour. Donc pour essayer justement de limiter le plus possible le cas d'une contamination exponentielle. Donc pour ça, une des solutions qui peut être envisagée et mise en place, c'est une application justement sur votre téléphone qui pourrait savoir qui vous avez rencontré dans votre entourage au fur et à mesure que vous êtes déplacé. Et donc de pouvoir prévenir ces personnes-là qu'elles ont rencontré quelqu'un qui est tombé malade.
Voilà, éventuellement les tester, etc. Donc on comprend que ça surveille tout le réseau de relations, exactement le genre de choses qu'on n'aime pas du tout, c'est un système de surveillance. Mais effectivement, en période d'épidémie, c'est un outil fort utile.
Sauf que derrière, y a plein de problèmes aujourd'hui, déjà la vie privée, parce qu'on cherche à créer le graphe de relations entre les personnes. Ça veut dire que ça peut être un vrai mouchoir de poche, en fonction de comment c'est utilisé. Il y a aussi les problèmes aujourd'hui, ça passe par les smartphones, donc du coup il y a du Google et du Apple dans la boucle. Avec toute la situation de monopole et qu'aujourd'hui ils sont pas enclins à faire ce que les États demandent. Et là pour le coup ils ont plutôt tendance à protéger même leurs utilisateurs. Et du coup ça donne des choses assez compliquées. Aujourd'hui les politiques français ont décidé de faire leur truc dans leur coin en essayant d'imposer à Google et Apple d'ouvrir les portes en grand à la surveillance de masse. et en passant par des grosses boîtes, les grosses SS2I qui ont été responsables d'énormément de fiascos logiciels. On en a déjà parlé ici, de Louvois, de plein de logiciels comme ça qui ont fini dans des situations complètement catastrophiques. Et donc, il y a tout qui se concentre ici et sur une solution à trouver ici 15 jours.
Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, elles ont retenu les leçons du passé. Elles vont pas recommencer.
On peut remarquer que tous les pays, plus ou moins, essayent de partir sur cette piste, de faire une application pour les téléphones portables, parce que tout le monde, ou plus ou moins, a un téléphone portable. Et donc, avec cette idée d'outiller tout le monde et de pouvoir suivre sa population, c'est déjà un petit peu ce qui se passe avec les opérateurs téléphoniques qui ont des informations, mais de masse, à peu près plutôt anonymisées, et ça leur permet d'avoir une idée des mouvements des foules. Mais là, c'est pour être plus précis et essayer de savoir,
qui a rencontré qui, oui.
Et donc, aujourd'hui, tous les pays le font plus ou moins. L'Autriche, l'Australie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne sont en train de travailler sur différents outils. Et il y a des protocoles qui ont été imaginés, qui ont été réfléchis. Et il faut remarquer, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils ont une idée, c'est de pouvoir centraliser sur des serveurs dans leur contrôle et pour savoir qui a rencontré qui. Et donc, tout ça, cette idée de centralisation, c'est bloqué par les téléphones parce que sur les téléphones, Apple, Google ne permettent pas facilement d'ouvrir les connexions, alors ce qui s'appelle Bluetooth, c'est le protocole qui va être utilisé pour que les téléphones qui se rencontrent se font « bonjour, je suis un tel, bonjour, je suis un tel », c'est grâce à Bluetooth. Eh bien oui, effectivement, là, Apple, Google bloquent et ne veulent pas que ce soit centralisé. Donc c'est un peu gênant, et d'ailleurs l'Allemagne vient de bouger sur le sujet.
Il y a quand même un paradoxe intéressant dans ce que tu viens de dire, Manu, c'est que Google et Apple sont quand même partie de ce qu'on appelle les GAFA, ou les GAFAM, qui ont tendance justement à centraliser tout ce qui est donné. Et là, comme c'est pas eux qui ont eu l'idée, ils veulent pas que ce soit centralisé, c'est ça le truc?
Ils veulent surtout que ce soit centralisé chez eux et pas chez un tiers. En fait, le problème derrière, c'est le tracking publicitaire ou autre, enfin en tout cas le détournement de la finalité. Parce que le Bluetooth, donc le BLE, a été utilisé au tout départ des Android et iPhone. C'était autorisé, sauf que tous les marketing et autres s'en sont servis pour faire du tracking à courte portée. Et donc, même si vous n'aviez pas la géolocalisation d'active, ils arrivaient à savoir par où vous étiez passé. Il y avait des gens qui mettaient même des balises, des commerciaux qui mettaient des balises pour détecter que vous étiez dans le coin. Et du coup, ils ont dit, stop, on arrête ça, on referme le système pour protéger la vie privée des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est que le BLE soit réouvert à tout le monde et donc que ce soit utilisé pour Covid, mais aussi pour d'autres usages qui seraient beaucoup moins respectueux de la vie privée des gens. Et donc, ils veulent bien centraliser, mais à condition que ce soit sur leur machine et de ne pas autoriser ces données-là à l'extérieur de chez eux.
Donc là, il y a un conflit. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et d'autres essayent de pousser ces opérateurs pour qu'ils acceptent d'ouvrir le protocole Bluetooth en permanence et qu'ils puissent obtenir ces données. Mais ça bloque.
Alors, je crois que l'Allemagne vient de faire le choix des GAFAM. Pour le coup, eux ont changé leur fusil d'épaule en disant « on a besoin d'eux et on fera avec eux ».
Et il y a eu un coup de tonnerre aujourd'hui, mais on ne connaît pas encore les conséquences de ça. Il semblerait que la France aussi se soit retirée de son stop Covid.
La France a même fait assez pire, parce qu'au départ, il faisait partie d'un énorme consortium en fait qui s'est monté au niveau européen, qui a explosé un peu au vol, parce que justement, il y avait des intérêts privés un peu bizarres, etc. Donc le truc était orienté très recherche, avec l'INRIA en particulier, qui était moteur sur le sujet. Le truc a été complètement refermé, mais la France avait dit « nous, on continue quand même à publier ». Donc ils avaient déjà mis des dépôts de code source à disposition, etc.
Sur GitHub.
Dans GitHub, et là, ils ont tout fermé. Les dépôts ont été fermés, les codes sources ont été retirés. Tout le système, justement, a été filé à des grosses boîtes. Donc, on parle de Sopra, de Capgemini, etc., qui vont récupérer le bébé. Et forcément, eux, l'open source ou le libre, on n'en parle même pas. Et donc, ils ont tout fermé, tout cloisonné. Et la France est retirée du groupe européen qui travaille sur les algos et les protocoles et toute la réflexion sur la vie privée.
Ce qui est un scandale en soi, parce que là, il y avait eu beaucoup de débats qui étaient y compris politiques, dans les commissions et dans les députés avaient discuté du sujet, et il était bien important que ce soit en libre et qu'on ait accès à tout, qu'on puisse tout voir pour la transparence et s'assurer de ce qui se passe. Et donc là, s'ils font quelque chose de propriétaire en passant par des grosses boîtes qui ont un historique de faire des mauvaises choses, ça risque de créer des gros problèmes.
Moi, je ne serais pas étonné qu'une des motivations du gouvernement là-dedans, c'est de financer ces grosses boîtes. Ils aiment bien donner de l'argent aux grosses entreprises.
Avec d'autres présidents dans le passé, on se rappellera des emprunts Sarkozy qui ont beaucoup aidé des entreprises françaises.
C'est ça, et puis c'est des grosses boîtes où les hauts fonctionnaires peuvent aller pantoufler. Et donc, c'est une bonne aubaine de verser de l'argent dedans. Après, effectivement, il y a toujours cette inquiétude de l'effet cliquet, c'est qu'on a besoin, parce qu'on est en période exceptionnelle d'épidémie, d'avoir un outil de traçage des gens, qui refait le réseau de relations. Mais comme très souvent, dès lors qu'on va s'autoriser à franchir une limite, on ne revient pas en arrière, on ne revient pas au niveau où on était. Et on se dit, bon, ouais, c'est bon, on l'a fait, on n'est pas mort, et ben on va continuer sur cette voie-là. Et c'est d'autant plus facile quand, effectivement, on a un système fermé, verrouillé.
Pour le coup, Google et Apple, en bloquant ces efforts de centralisation, bah oui, effectivement, ils vont dans notre sens, c'est énervant.
Bah là, pour le coup, ils défendent bien les utilisateurs, et surtout, sachant que les groupes de travaux, justement, au niveau européen, avaient trouvé un protocole qui était à peu près respectueux de la vie privée, et qui ne pose pas tant que ça de questions, en fait.
Le protocole Robert, hein, c'est ça dont tu parles?
DP3T. C'est DP3T, justement, il y avait deux concurrents. Il y a DP3T qui est justement assez respectueux de la vie privée, voire même très respectueux de la vie privée, qui évite de conserver le graphe social des gens, etc. Et il y avait l'équivalent qui est Robert en France et qui s'assoit un peu plus sur la notion de vie privée pour aller plus vite ou des problématiques techniques, etc. Mais en tout cas, il était beaucoup moins respectueux. Mais DP3T, sur le papier, est assez joli comme solution et ne stocke, en gros, personne n'a accès au réseau social d'une personne. Donc c'est plutôt assez joli et assez élégant.
Alors je tiens à préciser, hein, Robert, c'est comme le prénom Robert, hein, ils ont quand même trouvé un protocole qui se nomme Robert. À vue de nez comme ça me le rend sympathique, mais...
Oui, mais pour un protocole que tu veux proposer au monde entier et que tu veux vraiment propager, faire en sorte que tout le monde l'utilise, ça fait un peu bizarre, hein,
Ça fait un peu dictionnaire.
Oui, effectivement. Alors, sachant que le protocole respectueux, le protocole décentralisé, je crois que c'est une université suisse qui le propose, mais pas que, hein. Et effectivement, là, Apple, Google, c'est ce qu'ils ont l'air de favoriser.
Bah, en fait, dans DP3T, c'est plus vraiment un problème de centralisation-décentralisation, parce que dans les deux mondes, ça serait envisageable. En fait, il y a tellement peu de données que même en version centralisée, ça pose pas de souci. Mais la problématique avec Google et Apple, c'est effectivement l'accès au BLE, et que sans l'accès au BLE, de toute façon, toutes les applications vont échouer. Et ça a été prouvé avec ce qui s'est passé en Asie et le Covid, où ils avaient une application de ce type-là, en fait, mais ils se sont rendus compte que... au bout de 10 minutes, les applications étaient tuées par les smartphones et que bah, du coup, ça collectait plus rien. Et ça a été un échec monumental. Et c'est le risque de la solution française, c'est que sans les Google, Apple, etc., on va avoir une application qui va être faite par des mauvaises boîtes, dans des mauvaises conditions, sans être libre, et en plus, qui ne fonctionnera pas à terme.
Donc au final, d'un point de vue des libertés, c'est plutôt pas mal, parce que tu es en train de nous prédire le fait que ça va se planter. Par contre, d'un point de vue financier et d'un point de vue de la gestion de l'épidémie, c'est pas une bonne nouvelle, quoi.
Et puis aussi, une question d'habitude de la population, c'est qu'on commence à mettre ça dans la poche de tout le monde. Et si on l'a fait pour Covid, on peut le faire aussi pour autre chose derrière.
Pour le terrorisme.
Et ce qui est navrant, c'est qu'au départ, c'était un projet où il y avait de bonnes idées, de bonnes pratiques, justement, de mettre le code en open source, que tout le monde puisse l'auditer. C'était quand même aussi à la base financé avec de l'argent public. Je crois que c'est toujours financé avec de l'argent public, sauf que maintenant, on ne va plus pouvoir auditer le code. Donc, on va pas vraiment savoir ce que fait l'application. On va devoir croire sur parole des industriels qui vont dire que non, ça respecte la vie privée, tout ça. Sauf qu'on n'en aura aucune idée. On ne saura pas dans quelle mesure l'application ne va pas, par exemple, aller fouiller dans nos agendas, dans nos listes de contacts personnels. Et c'est pas forcément très sain non plus pour la protection de la vie privée. Il y a ça, il y a aussi, est-ce que l'application va nous permettre, si on sort, d'activer le Bluetooth et quand on est chez nous, de le désactiver? Ou est-ce que le Bluetooth devra être tout le temps actif? Ça, on n'en sait rien.
Parce que ça commence déjà à parler de restreindre l'accès à certains magasins ou à certains lieux publics uniquement si on a une application mobile active. Et ça, ça se détecte, hein, puisque du coup, votre téléphone émet en permanence du Bluetooth. Donc, si vous n'avez pas le Bluetooth actif, vous n'avez pas le droit de rentrer.
Tout ça, c'est en cours de fabrication. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Ça bouge. C'est en train de changer en ce moment même, au moment où on en parle. Donc, je suppose qu'il y aura des articles qui vont un petit peu présenter tout ce qui se passe dans les semaines qui viennent.
On verra bien dans 15 jours.
Très bien. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.